Bonsoir tout le monde, on est ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, écoute les artistes pendant une heure, tous les soirs, et ce soir on est ravis de recevoir l'écrivain Maria Pourchet.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent, Marie Richeux,
ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Un jour, et avec la même puissance sourdement dévastatrice que Bartleby, Reine, une femme, la trentaine, dit qu'elle ne préférerait pas. Réalise qu'en fait, elle n'a pas très envie. Et ce n'est pas rien. Promise à une ascension fulgurante, elle descend d'ascenseur, en prend un autre, et puis un autre, maîtrisant à chaque fois le langage de la machine, en l'occurrence ici, capitaliste. Elle ne dit pas qu'en secret, la machine, c'est le désir, mais nous, nous le savons, car votre narration est aussi complice que rapide, Maria Pourchet. Dans ce texte qui oppose son efficacité et sa drôlerie à l'exigence d'efficacité et de glamour réclamée par l'entrepreneuriat, on se demande, en souriant, parce que c'est profond, et avec vos personnages, si ça vaut le coup d'attendre son heure. Bonsoir à vous, Maria Pourchet.
Bonsoir Marie.
Bienvenue. Votre roman s'appelle Les Impatients. Il paraît en cette rentrée littéraire de janvier aux éditions Gallimard. Et il ne prend pas la place parce qu'il est complètement ailleurs de ce si beau texte paru à la rentrée d'automne. Cette fois aux éditions Pauvert et qui s'appelait Toutes les femmes sauf une. Peut-être que comme les parutions se suivent de manière assez rapprochée, est-ce que ça veut dire que ce sont des textes qui ont à voir ensemble? Est-ce que c'est un hasard des calendriers? Est-ce que les écritures, elles se sont comme ça côtoyées ou pas du tout?
Alors c'est à la fois une histoire d'agenda éditorial et à la fois l'agenda de ma propre écriture. En fait, Les Impatients devaient sortir en septembre, mais c'était pas prêt.
Et vous n'étiez pas prête?
Je n'étais pas prête. Enfin, c'est comme ça que je me l'étais imaginé. Et donc, du coup, Toutes les femmes sauf une étaient de toute façon prévues en janvier. Je l'avais écrit juste avant. Et donc, il ne s'agissait pas de que les deux livres, les deux textes sortent au même moment. Donc, On a inversé.
Voilà. Vous avez inversé. Et quand vous parlez d'un agenda d'écriture, ça veut dire que ce texte, Toutes les femmes sauf une, était complètement terminé au moment où vous avez commencé Les Impatients?
Oui, mais c'était d'une heure à l'autre. C'est quelque chose qui m'est jamais arrivé, qui était assez douloureux d'ailleurs, qui était intéressant, mais qui était épuisant. Je suis passée d'un texte à l'autre, d'un registre à l'autre, d'un personnage à l'autre. Et ouais.
Avec le projet? C'est-à-dire que vous terminiez ce texte-là, qui, on en parlera tout à l'heure, est vraiment un texte très très différent, pas tant dans ce qu'il agite, mais dans sa forme en tout cas. Et tout de suite après, vous passiez au roman.
Les deux textes répondaient à une urgence qui n'était pas la même pour chacun. Toutes les femmes sauf une, j'avais prévu de l'écrire après, en fait, Les Impatients. J'avais les Impatients vient, on en parlera j'imagine, mais c'est la restitution d'une enquête aussi. J'avais tout en tête, j'avais les personnages qui frappait à la porte et tout, donc fallait que je leur réponde en fait, fallait que je produise ce texte. Et à la fois, j'étais incapable de commencer à écrire de la fiction pure et dure sans livrer ce texte dont vous avez parlé, qui est Toutes les femmes sauf une, qui était douloureux à accoucher pour le coup. Mais j'avais l'impression, enfin c'était pas une impression, c'était physique, que si je ne le terminais pas, je ne pourrais jamais plus écrire une ligne. Et donc voilà, j'ai inversé un peu les priorités. Et puis j'ai terminé Toutes les femmes sauf une pour m'en libérer, pour devenir quelqu'un d'autre qui a été capable d'écrire Les Impatients sur la même énergie, je pense. Hein.
Est-ce que vous sauriez dire pourquoi? Peut-être qu'il faut dire ce que c'est un petit peu Toutes les femmes sauf une.
Alors Toutes les femmes sauf une, c'est un récit sur la violence faite aux femmes par les femmes, sur la violence symbolique hein, bien sûr, sur la transmission. Sur les lois générationnelles qui font que les filles seraient condamnées à ressembler aux mères avec parfois la complicité de celles-ci et comment elles peuvent ou non y échapper. Voilà. Et c'est ça se... C'est autour de la maternité, de l'accouchement. Le récit se passe dans une maternité où pendant 15 jours, une mère adresse à la fille dont elle vient d'accoucher les raisons de sa peur de la reproduction et de la transmission et du conditionnement.
Mais il faut quand même que ça ait à voir avec le langage, Maria Pourchet, pour que vous fassiez de l'écriture de ce premier texte, de ce texte-là, pardon, qui n'est pas le premier, une condition sine qua non pour pouvoir poursuivre. Ça veut dire que toutes les femmes, sauf une, est aussi... adresse aussi une question au langage et à l'écriture.
Il ne parle que de ça. Dans Toutes les femmes sauf une, donc, qui est le livre dans lequel je parle de moi, contrairement à celui dont on va parler ensuite, j'essaye de faire l'inventaire de toutes les phrases qui m'ont... Elles ont aussi un caractère un peu universel, donc qui sont là pour conditionner les femmes, pour les limiter. Enfin, toute la rhétorique du tiens-toi droite et tout ce que ça peut entraîner avec tout ce catalogue-là. Et il s'agissait pour moi de m'en nettoyer par cet inventaire-là, de faire taire une certaine voix. Et voilà, en fait.
Pour en trouver une autre, forcément une autre, par exemple.
Pour trouver ce qui restait. En fait, pour retrouver, je pense, une parole ou une langue en tout cas, c'est comme ça que je me le raconte, qui préexistait avant celle que l'on m'a apprise, avant toutes les injonctions, toutes les consignes, avant même mes propres lectures. Et je craignais qu'il n'en reste rien, d'ailleurs, et qu'il ne reste notamment rien de mon ironie. Et c'est pour ça que Les Impatients étaient un soulagement pour moi, parce que je me suis dit, il reste quand même ça. Et je n'étais pas sûre de pouvoir écrire, je ne l'ai pas dit à mon éditeur, mais je n'étais pas sûre de pouvoir écrire encore quelque chose après Toutes les femmes. C'est comme, vous savez, il y a un poème de Yeast qui dit « Je cherche le visage que j'avais avant la parole ». Bah, c'était un petit peu ça, c'est-à-dire je cherche la parole que j'avais avant la langue française. Voilà, c'était la démarche, peut-être un peu lyrique de le dire comme ça, mais c'était ça.
Et pour qui a la curiosité d'aller lire les livres qui précèdent Les Impatients, ça veut dire qu'on ne vous trouverait pas dans la même langue, Maria Pourchet ?
Alors ça, j'en sais rien. Ça, je pense que ça appartient aux critiques et aux lecteurs. Moi, j'ai pas encore assez de recul pour identifier ça. Je pense que mes premiers livres traduisaient peut-être un peu plus mes maîtres, c'est-à-dire les gens à cause desquels ou grâce auxquels j'ai écrit. Et que désormais ça s'est dilué. Il y a une appropriation plus forte de ma propre langue qui, je pense, se traduit, enfin, c'est vraiment traduit dans Toutes les femmes et ensuite dans Les Impatients.
Alors c'est marrant, vous imaginiez peut-être ne pas du tout pouvoir écrire ou ne plus pouvoir rien écrire après Toutes les femmes et en fait vous écrivez dans l'heure qui suit.
Oui. Oui. Oui, parce qu'après, bon, il y avait quelqu'un en face qui attendait un texte que j'avais promis. Et donc, heureusement d'ailleurs qu'il y avait cette contrainte-là, parce qu'il est possible que l'écriture, j'insiste encore sur l'accouchement, parce que j'aime pas d'habitude cette analogie pour parler des livres, mais Toutes les femmes sauf une, il se trouve que je l'ai accouchée. Et je pense que je serais restée dans l'épuisement et dans la léthargie qu'avait créé ce texte, et je serais peut-être restée un peu longtemps. Donc parfois c'est très bien d'avoir signé un peu tôt des contrats pour avoir à livrer le texte, et c'est ce qui s'est passé.
Donc vous vous mettez en route, et donc arrivent Les Impatients dont on va parler.
Je me suis réveillé un matin en me disant je peux plus fictionner, je sais pas, c'est pas un très joli mot, je peux plus légender, c'était Gertrude Stein qui disait ça, alors elle disait voilà, nous sommes légendaires, comme ça. Je pense que qu'est-ce que, alors je me suis dit bon, bah alors ça va être si simple, hein, mais profitons-en. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette situation d'un spécialiste de la fiction qui, tout d'un coup, n'a plus la... C'est pas qu'il a perdu son personnage, c'est une allégorie. C'est qu'il a perdu la faculté de se transférer, de se revoir par un curieux mouvement qui fait qu'il a besoin d'un support pour parler aux autres. Parce qu'au fond, le personnage, c'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est pour que ça soit entre nous, c'est un messager providentiel. Moi, j'ai pas du tout l'impression de travailler à l'écart et d'être un écrivain qui filtre, qui fait que je sais pas quoi. On pourrait dire ça comme quelqu'un qui fait un type d'énorme alambic, qui fait du parfum, qui prend le monde comme ça et qui le broie pour obtenir un pain. Moi, j'ai l'impression vraiment d'être en permanence traducteur. Très modestement, moi je suis scribe traducteur, voilà, je suis employé, si vous voulez, je suis dans une petite cahute près des choses. Alors j'ai déjà une chance, je suis déjà dans une petite cahute d'ermite, hein, mais pas loin de la catastrophe. Et puis on est obligé de tous les jours de trouver un système. Alors justement, je reviens à ça. À fictionner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire recouvrir, faire un conte allégorique pour, avec la prétention de faire comprendre aux gens mieux par la fiction que par le réel. Non, ça veut dire peut-être prendre chacun des événements et leur donner des racines, retirer comme on tirerait du lierre sur un mur, tout doucement, tout doucement. C'est à la fois un travail de médecin généraliste, d'archéologue, mais petit. Et je pense que, et alors c'est là où je me dis, ce qui est compliqué effectivement, c'est ce lien très très compliqué entre réel et fiction. Et je pense que chaque écrivain, tout simplement, et ça c'est très banal, mais doit, un livre finalement propose un réglage. Un livre dit à un, autre, à un lecteur, voilà, ben moi je vois ça comme ça. Alors, est-ce qu'éventuellement ça te va aussi? C'est une proposition de réglage.
C'est Olivier Cadio, en 2015 au micro de Kathleen Evin dans l'émission L'Humeur Vagabonde sur France Inter. Maria Pourchet, moi j'ai eu envie de vous faire parler un peu de mécanique littéraire, de proposition, de contrat, de machine, c'est un mot que je plaçais dans l'introduction, et je trouve ça intéressant que Cadio parle de réglage. Alors si les impatients proposaient un réglage, si vous êtes d'accord avec la proposition de Cadio, ce serait quoi comme réglage?
Alors, lui, ce qu'il vient de dire, c'est que l'auteur dit « je vois les choses comme ça », c'est ça. Dans les impatiences, il y a un réglage, c'est donc il y a toujours un dispositif d'écriture dans mes livres. C'est j'y tiens beaucoup. C'est aussi important que. Alors, il y a des auteurs qui n'aiment pas parce que le dispositif écrase parfois. Mais dans tous mes livres, c'est aussi important que ce que je dis et la manière dont je le dis, de réinventer le format. Donc, pardon, j'ai un peu l'esprit d'escalier, mais dans ce livre-là, je ne dis pas voilà comment je vois les choses. Je dis plus voilà comment mes personnages voient le monde, voient leur temps. Je suis plus. C'est vraiment le seul livre où je parle pas de moi, donc je suis beaucoup plus au service des personnages qu'avant. Parce qu'ils ont une source réelle, ils ont une inspiration réelle. J'ai rencontré, pour écrire ce livre, plusieurs dizaines de jeunes dirigeants français, que ce soit des... Enfin, les millennials, en fait. Les millennials sont proies à la réussite et à la tentation de la réussite. Donc des jeunes entrepreneurs, des gens de 30, de la trentaine, qui sont déjà au COMEX des entreprises du CAC 40. Enfin, vraiment, ce que... des incarnations de la réussite à son état jeune et précoce. Et donc le fait d'avoir cette source-là m'a rendue beaucoup plus humble et beaucoup vis-à-vis de mes personnages. Voilà, donc parfois ils pouvaient m'agacer, parfois j'en étais passionnée, mais je suis moins entrée dans le jeu. Moi, je parlerais plus de jeu d'ailleurs que de réglage, même si effectivement l'analogie avec la mécanique est intéressante. Pour moi, ça va beaucoup plus vers le ludique. C'est-à-dire que, oui, il y a un jeu où il y a trois protagonistes auxquels je pense tout le temps à chaque phrase, qui est le lecteur, le personnage et l'auteur. Et je vois ça, même je le visualise hein, quand j'écris, je le vois comme un ping-pong à trois. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça pourrait ressembler, une table ronde. Et chacun essaye de prendre la balle, de la renvoyer plus vite et tout. Et je suis tout le temps en train de renvoyer la balle au lecteur, au personnage. Parfois, c'est le personnage qui garde la balle, donc il y a le pouvoir sur le jeu. Et parfois, j'essaye de lui reprendre. Parfois, j'accepte de lui laisser. Parfois, je n'arrive pas à lui reprendre. Parce que souvent les personnages prennent le pouvoir, surtout s'ils ont des tempéraments forts. C'est le cas dans Les Impatients. J'avais l'impression que le personnage prenait le pas sur arriver à m'imposer sa personnalité, son moi, et que j'arrivais pas à le lisser, à le rendre peut-être plus sympathique que j'aurais voulu parfois pour que le lecteur lui pardonne tel et tel trait. Donc non, il voulait affirmer. Et c'est pas systématique. Donc c'est en ceci qu'on échappe au réglage, parce que dans la notion de réglage, il y a une notion de contrôle. Et moi, j'éprouve quand même beaucoup plus que ce contrôle. C'est le caractère extrêmement jouissif de la littérature, c'est de l'écriture. C'est que ce contrôle, on le perd tout le temps. Et plus on accepte de le perdre, plus c'est bon, en fait.
Et d'ailleurs, parce que si vous pouvez avoir un minimum de contrôle sur l'auteur, un petit minimum de contrôle sur les personnages dont vous disiez qu'il est assez relatif parce que parfois il vous échappe, comment avoir vraiment le contrôle sur le troisième du trio qui serait le lecteur?
C'est pour ça qu'il faut le faire rire, c'est pour ça qu'il faut le faire sourire, parce que ça, à la rigueur, on peut le... C'est peut-être une des seules choses qu'on peut anticiper. L'intérêt, c'est être sûr de l'intéresser. Ça, il y a toujours une catégorie de gens qu'on intéresse au regard de l'objet qu'on aborde. L'émouvoir, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Voilà, il faut, pour émouvoir quelqu'un, il faut rentrer dans un registre qui est testimonial souvent, et c'est pas ce que j'ai fait avec le livre précédent. Là, c'était pas le cas. En tout cas, c'est plus garanti. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est plus évident de faire sourire le lecteur, de l'amuser. Et puis, je me suis toujours dit qu'on lui devait. Donc, s'il avait la générosité d'aller chercher un livre et de l'ouvrir et peut-être même de le lire jusqu'au bout, je suis obsédée, moi, par l'ennui. Sans faire des page-turners, je suis obsédée par l'ennui du lecteur. Parce que, je sais pas, moi, je peux m'ennuyer souvent, quand même, dans un livre et tout. Donc,
Et vous êtes d'accord pour ça ou pas du tout?
Pour
vous ennuyer dans un livre? En tant que lectrice.
Non, moi, non. Je vais jamais au bout d'un livre.
Moi, je connais des gens qui sont d'accord. C'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, je sais. Oui, oui, tant que les journées font pas 74 heures. Non, moi, il faut qu'un livre m'apprenne quelque chose, qui réinvente la langue, qui me surprenne, qui. Ou alors, c'est le livre d'un ami et puis il faut lui en dire quelque chose. Mais non, sinon, moi, j'avoue que je suis pas.
Donc, ça veut dire qu'un livre, pour vous, Maria Purchet, c'est un projet? C'est un projet avec l'idée qu'il est possible dans ce projet de faire lire, de faire rire, pardon, d'émouvoir le lecteur. Enfin, vous avez une projection, une action à avoir sur la personne qui va vous lire.
Alors, je dirais, un livre, l'écriture est un projet. Un livre, non, parce que je ne sais jamais ce qui va devenir. J'ai pas de plan, enfin celui-ci un peu plus parce qu'il y avait des données d'enquête à restituer. Mais non, je me laisse quand même beaucoup trop guider par le personnage et encore une fois par sa personnalité pour que ce soit un projet. En revanche, l'écriture, certaines fonctions de l'écriture. J'en fais un projet, déjà un projet pour moi, c'est-à-dire que c'est un exercice dans le cadre duquel je supporte pas de me faire mal ou de m'ennuyer, parce qu'on a d'autres sources pour ça. Donc je veux que c'est sensoriel l'écriture, je veux que ça me fasse du bien d'écrire une phrase et que quand on met un point final à la phrase qu'on a dite telle qu'on voulait la dire, c'est bon. Et je veux reproduire ce plaisir-là tout le temps. J'ai envie de faire sourire, voilà. Donc déjà, ça c'est un projet un peu égoïste, c'est le mien, quand j'écris. Et puis je vais apprendre, j'essaye de dire quelque chose sur mon temps, mais de manière allusive, sans être scolaire. Et puis j'essaye d'amuser. Et puis voilà, en fait, c'est le...
C'est un projet de longue date, la littérature, pour vous, Maria Purchet?
Oui. Oui, c'est comme dès que j'ai su lire, en fait. Ouais. Oui, j'ai voulu être écrivain, je pense, à 6-7 ans.
Écrivain, pas écrire des livres. Enfin, vous vouliez être
écrivain. Oui, je disais écrivain.
C'est aussi une place sociale.
Oui, ben justement, ça, c'était un gros sujet. j'ai voulu être écrivain à 6-7 ans, je l'ai dit. Voilà, j'ai dit je serais romancier, parce que pour moi, c'était un masculin. Et on m'a dit, mais c'est pas un métier. On m'a dit, c'est très bien, c'est très super, mais c'est pas un métier, au sens, on n'en vit pas d'être écrivain. Donc là, ça a été la première... justement, le principe de réalité sociale, qui était une idée totalement artificielle, mais en tout cas qui a malheureusement fait son chemin longtemps en moi. Donc j'ai passé le reste du temps à nourrir ce désir-là, mais à me dire, il faut que je trouve un métier, en fait, qui me permet d'écrire des livres. Donc c'est comme ça que j'ai fini par enseigner, parce que je m'étais dit que enseigner à la fac, c'est le meilleur moyen d'écrire des livres. J'ai pensé au journalisme, et puis après, je me suis dit, non, en fait, on n'aura pas le temps. Et j'ai vraiment pensé ma vie en fonction de, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Mais dès qu'il a fallu trouver des études, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux m'installer comme conditions qui me permettront d'écrire des livres.
Manifestement, vous avez réussi, parce que ce n'est pas le premier avec Les Impatients. Puisqu'on parle de cette enquête et que vous faites mention à la fin du livre, justement d'une enquête réelle, d'une enquête sociologique sur laquelle vous êtes appuyé pour écrire ce livre-là, et qu'à l'instant, Olivier Cadiot parlait de la tension entre être en mesure de fictionnaliser, peut-être est-ce que vous pouvez juste... nous parler de dispositifs et de méthodologie pour Les Impatients.
Alors, je fais des enquêtes, je suis sociologue de formation, et je fais des enquêtes pour un organisme qui s'appelle l'Observatoire des gouvernances et des hauts dirigeants, pour lequel j'avais fait par les années précédentes, des rapports d'enquête. Et j'avais toujours une frustration de laisser, parce que le geste sociologique, il peut être un peu stérilisant, un peu asséchant, de laisser dans l'ombre toute une masse de résultats que la romancière trouvait passionnante. Enfin, tout ce qui est de l'ordre du signal faible, de la suggestion, de l'augure, d'un verbatim qui est passé par là et qui... Mais je faisais des typologies, où je parlais des gens que je rencontrais dans une typologie, ils devenaient des types, et ça m'attristait. Et donc, quand j'ai fait cette enquête-là auprès des jeunes dirigeants français, j'ai demandé si je pouvais restituer les résultats dans une fiction. Et la chance que j'avais, c'était que la personne qui coordonne ces enquêtes-là, qui s'appelle Brigitte Lemercier, et que je ne vais pas rater une occasion de remercier parce qu'elle a vraiment rendu ce roman possible, et convaincue de que la fiction est un outil sociologique puissant.
Et donc, vous aussi ?
Ah oui, oui. Moi, je suis une grande lectrice de Houellebecq, elle aussi. Et donc, oui, vraiment.
Donc, quand vous parliez tout à l'heure des personnages qui toquent à la porte, c'était presque des personnes.
Ah oui.
Qui toquaient à la porte. C'était des personnes que vous avez rencontrées, avec qui vous étiez entretenues, qui pouvaient figurer dans vos rapports.
Oui, oui. Bah, le personnage de Rennes ou le personnage d'Étienne, ils sont chacun 10-15 personnes qu'ils expriment. Mais oui, c'est des vrais. En plus, ça rendait le truc encore plus urgent. Oui, ça faisait une foule qui toquait à la porte. Et donc, voilà, ça c'est pour répondre sur le. Donc, il y a un dispositif initial qui est celui-ci. Et puis voilà, après, il n'y avait pas tant un dispositif qu'une exigence. C'est-à-dire que j'ai la chance de faire ça. J'ai un matériau et il faut que tout fasse circuler une information, puisque l'enjeu c'est d'en dire plus que si j'établissais un schéma analytique. Il faut qu'il n'y ait pas une ligne de dialogue, qu'il n'y ait pas parce que contrairement à la sociologie, la littérature c'est la fiction, c'est la langue de l'entre-deux lignes. En fait, il y a ce qu'on rédige littéralement, puis il y a tout le monde de la suggestion, de l'allusion et tout, et de pouvoir investir ça, c'est génial. Donc je ne voulais pas qu'il y ait dans chaque second degré, dans chaque allusion, dans chaque réflexion, dans chaque clin d'œil, je voulais que ça traduise un résultat de mon terrain.
Mais comme je le disais, une efficacité qui répondrait à une autre demande d'efficacité, c'est intéressant. Il n'y a pas très longtemps, Céline Minard, elle disait « on n'arrête pas de nous demander d'être efficace partout et tout le temps ». Alors moi, j'ai pris ça au pied de la lettre et j'ai fait un bouquin efficace, sauf qu'il est autrement efficace. Alors vous diriez quoi, Maria Pourchet, à cette demande d'ultra-efficacité encore plus dans les milieux dont vous traitez ou dans les milieux sur lesquels vous enquêtez, vous répondez par une autre forme d'efficacité ou c'est la même ?
J'ai répondu par... oui, il y a une forme d'efficacité dans... En tout cas, elle répond davantage à ce que sont les gens que j'ai rencontrés. Une forme d'impatience dont on parlera sûrement. Et je dis pas ça d'une perspective critique. Ce sont des gens qui vont vite, qui veulent aller vite. Et ce livre, il va vite. Et je me rends compte maintenant, mais je pense que c'est un inconscient quand je l'écrivais. Ça devait aller au galop. Et j'ai beaucoup aimé. Ça me ressemble. Donc c'est parce que. Répondre à la demande d'efficacité par l'efficacité, il y a une idée de contrainte et que j'ai pas du tout ressenti. J'étais pas du tout dans ce rapport-là. Ça a été que c'est que du bonheur en fait. J'aime pas du tout cette expression. C'est une pure
joie. Trop tard.
Trop tard.
Franchement, c'est vraiment trop tard et je m'engage à ne pas la couper. C'est que du bonheur. C'est enregistré, c'est tant pis pour vous.
Voilà, ça vaut le coup d'écrire des livres. Tiens. Et donc voilà, je voulais que ce livre galope et qu'il soit que sa facture, que son format soit à l'image des gens dont j'essayais d'exprimer le.
Donc c'est pas une efficacité. Pour reparler de Céline Minard.
C'est pas artificiel, c'est pas.
Ni artificiel, ni en réponse critique. C'est-à-dire, c'est pas une efficacité qui voudrait retourner la demande d'efficacité contre
qui
la demande.
Voilà. Ça voudrait dire que c'est un peu. Non, c'est pas ça. Pour le coup, c'est pas ça. Effectivement, il y a un contexte, qu'il y a des exigences, qu'il y a des attentes, mais ces attentes, c'est moi qui les ai dictées, parce que c'est moi qui ai voulu faire un roman avec ces résultats-là. C'est un défi que je me suis donné. On m'a pas forcé, quoi. C'est pas. Donc. Voilà.
Aux deux rues Vivienne, vous êtes Pierre. Vous profitez du canapé Chesterfield qui chaque jour ravive votre fierté. Vous avez su l'imposer ici, quand votre compagne, hermétique au charme britannique, freinait des quatre fers. Une tablette sur les genoux, vous facturez à tour de bras votre connaissance hypermnésique du Dalloz. Reine est dans la chambre où, depuis quelques jours, prétendant dévorer The Crown saison 2, elle gamberge, vous le savez. Vous ne savez pas à quoi. Vous regardez l'heure, vous avez une montre au poignet et satisfait du travail accompli, vous éteignez votre écran. Elle émerge à cet instant, fébrile et le pourpre aux lèvres. Vous reconnaissez les symptômes de cette exaltation. Bientôt, elle déplacera des montagnes, à minima des choses. Anticipant un réaménagement du séjour, vous vous enfoncez dans le Chesterfield résolu. Elle se plante devant vous. Elle dit qu'on n'est pas obligé de vendre sa force de travail. Pas tout le monde, pas elle. Et sur le ton de « je déclare la guerre », elle dit « je monte ma boîte ». Vous l'attendiez ? De « approfondissez-vous ». Ça s'appellera « l'état sauvage ».
Premier extrait, Maria Pourchet, de votre texte « Les impatients », lu par Lou Quevauvillier, pour faire entendre cette forme d'adresse. On disait tout à l'heure la manière dont vous faites entrer le lecteur dans le jeu. Moi, j'ai pensé à des trucs que je n'ai jamais lus, mais dont je sais que ça existe. Ce sont les romans dont vous êtes le héros. Vous êtes aux deux rues Vivienne et vous êtes Pierre. Est-ce que c'est une mécanique qui est arrivée tout de suite dans l'écriture, Maria Pourchet ?
Ah oui, elle arrivait pas sur tous les personnages. Elle arrivait... au personnage d'Étienne, qui est mon préféré, en fait.
Donc, qui est l'ami de Rennes.
Qui est l'ami de Rennes, voilà, qui est l'énarque, qui attend qu'on vienne le chercher dans une grosse boîte du CAC 40, qui attend qu'on vienne le chercher pour le pouvoir suprême, et qui est le personnage le plus ancien. Voilà, enfin, moi je l'aime, enfin, le plus ancien au sens culturel du terme, les références qu'il a, la perception de la France qu'il a, c'est un nostalgique qui s'ignore l'être. Et donc ça venait naturellement avec lui, parce que comme c'était mon préféré, je voulais l'offrir, enfin, j'ai vous êtes. Et après, je me suis rendu compte que ça fonctionnait, ça donnait un rythme, et donc c'est là qu'on rentre dans la mécanique. Et je me dis, tiens, je vais l'appliquer à tous les personnages qui ne sont pas reines. Et je trouvais que ça fonctionnait à la lecture, puisque imaginons que chaque lecteur, enfin qu'une partie des lecteurs se distribue dans les catégories de personnages que je propose, et bien voilà, ce vous fonctionnera soit sur le mode de l'appartenance, de la proposition d'appartenance, soit sur le mode du rejet. Mais je me suis dit, dans tous les cas, c'est assez fort et ça fait partie aussi de ce jeu de ping-pong dont je parlais, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Avec le personnage, surtout quand c'est un personnage négatif, que je me dis, bah tiens, je vais les violenter. Parce que quand parfois, c'est vous, c'est vraiment, je le dis littéralement dans une page, vous êtes le connard de l'histoire. Et je me suis dit, tiens, c'est comme une déclaration d'hostilité. Comment... Mais c'est ce que j'aime faire, en fait.
Mais c'est aussi une blague, c'est-à-dire, ah oui, vous, je vous cite pas du tout dans le texte, mais vous êtes un peu crevé d'être ce personnage, attendez deux secondes parce que ce sera bientôt fini. Il y a aussi l'idée que, bah, évidemment, nous ne sommes pas Pierre, nous sommes en train de lire un roman, et donc ça rappelle en permanence le plaisir de la distance de la fiction. C'est-à-dire que vous nous invitez aussi à danser sur ce pied-là, Maria Pourchet, ce qui induit une forme de distance. Elle est à double tranchant, mais elle est existante, de cette distance-là.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, puisque on parlait des fonctions de l'écriture et de la littérature tout à l'heure. Parmi ces fonctions-là, il y a la fonction critique. Je fais vraiment la différence. Il y a des fonctions encyclopédiques, des fonctions documentaires, qui y a plein de fonctions qui ne m'intéressent pas dans l'écriture. Mais la fonction critique, oui, je pense que... Je pense que je peux pas y échapper. Je la manœuvre, je l'utilise et pour la matérialiser doucement, j'essaye d'être dans le, vous savez, de la même façon que Brecht dans le théâtre laissait les lampes allumées et on voyait les coulisses et on voyait les personnages disparaître dans les coulisses. Et c'est mes premières expériences de théâtre, c'est ça, c'est ce théâtre-là où, attention, la fiction, elle est en train de te dire autre chose de ton temps, justement. Et parfois, ça propose pas le même plaisir au lecteur. Je pense que c'est pas du tout la même expérience, mais au moins la proposition est très claire. Quand vous allez voir Brecht au théâtre, c'est très clair. C'est bah non, il n'y aura pas le noir, il n'y aura pas le rideau, il n'y aura pas, bah tant pis, maintenant tu. Et ça aussi, ça peut être un petit peu violent. Mais pour moi, je ne vois pas la nécessité de faire autrement.
Voir, oui, c'est ça. C'est en vous écoutant, le projet tombe à l'eau. Si, votre projet tombe à l'eau si nous sommes trop collés. Si nous sommes vraiment Pierre, si nous sommes vraiment Étienne, mais sans qu'on nous le dise, sans qu'on nous y invite, par le processus d'identification que peut proposer de manière un petit peu classique la littérature, alors l'espace critique, je ne dis pas qu'il est inexistant, et j'espère que dans tous les romans où nous sommes collés, mais qui sont des bons romans, ça fonctionne. Mais vous, vous proposez un pas de plus en disant « Je suis aussi en train de raconter une histoire, je suis aussi en train d'avoir des outils. »
Je matérialise un peu plus, oui. Après, il existe dans plein de romans qui, cet espace critique qui ne le matérialise pas. La meilleure façon de le matérialiser, enfin, la façon la plus répandue, oui, c'est l'ironie, c'est le second degré, c'est les jeux avec le... Il est plus ou moins difficile à trouver. Moi, je l'exprime peut-être un peu... Je balise, quoi, en tout cas.
Ce qui arrive à Rennes, c'est qu'elle décide de ne pas franchir les échelons qui lui sont proposés dans une entreprise où elle vient d'être embauchée, de partir, je disais, de faire un peu ce que peut faire Bartleby, d'une manière peut-être un peu plus brutale que lui encore, je préférerais pas, ou j'ai pas envie, et d'avoir envie d'autre chose, de fonder sa boîte, qu'elle dit devant son compagnon, vouloir appeler l'État sauvage. Là encore... J'avoue que j'ai beaucoup ri au moment où vous décidez d'appeler cette boîte l'État sauvage, Maria Pourchet, et que j'ai aussi pensé à Toutes les femmes sauf une, où vous rapportez une phrase, l'idée d'une gosse sauvage, l'idée d'une sauvagerie due aux forêts, aux animaux, à la fréquentation du vivant et de la nature. Et je me suis dit, ah, c'est marrant, finalement, ces textes sont pas si loin que ça, en fait.
Non. Effectivement, c'est un motif qui est récurrent dans tous mes textes, mais là, il est plus très exprimé. Je vais pas faire une réponse très organisée parce que ça convoque plein cette histoire de sauvagerie convoque plein de choses.
Allons pour une réponse complètement désorganisée.
L'état sauvage. Dans l'état sauvage, effectivement, il y a un clin d'œil parce que Rennes est un concentré de civilisation, donc à plein d'égards, dans sa formation intellectuelle, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de répondre aux injonctions de ses parents, de sa formation, de la société, etc. Et puis, quand elle fait quelque chose, quand elle prend la main sur sa vie, elle appelle ça l'état sauvage. Et on a l'impression
qu'elle est de beauté, voilà, et de consommation d'algues.
Voilà. Et on a l'impression que donc elle est dupe de ce jeu de mots. Mais pour moi, voilà, c'est un jeu avec les mots. Là où c'est plus du tout un jeu, c'est parce que je trouve que c'est, pour moi, c'est l'enjeu, l'un des enjeux forts de la trajectoire d'une femme, c'est de retrouver cette sauvagerie-là, parce que je pense que donc sauvagerie pas au sens se mordre, hein, mais au sens de la femme sauvage, quoi, vraiment l'origine, tout ce qu'il y a avant les conditionnements, avant la réponse à ces conditionnements, et c'est ce qu'essaye de faire Rennes. Au début, elle n'en est pas consciente, et donc voilà, et au moment où elle prend sa vie en main, elle appelle ça l'état sauvage. Et dans Toutes les femmes sauf une, oui, c'est exactement le même chemin. C'est-à-dire, c'est une femme qui, au moment où elle accouche d'une autre femme, voudrait que cette femme-là, elle, parvienne à rester sauvage. C'est-à-dire que sa nature ne soit pas dégradée par, y compris par sa propre mère, qui pourrait vouloir reproduire les traumas qu'elle a subis, etc. Et la mère, en s'adressant à la fille, cherche aussi, tourne autour de la femme sauvage qui enfouit derrière toute son histoire, et elle essaye de la faire remonter.
Sachant que ça s'adresse à deux endroits, en tout cas souvent présentés comme distincts, dans l'un des textes, la maternité, ou la mise au monde d'ailleurs, peut-être plus que la maternité et la filiation, et dans l'autre, le désir, parce que ce que ne dit pas Rennes ou très peu, ou ce que vous dites très peu en tant que narratrice dans ce texte, c'est que la machine, la sauvagerie, cet état sauvage arrive par le désir, par le désir sexuel, le désir amoureux, parce qu'elle rencontre un marin qui s'appelle Marin, et qu'elle ignore, mais c'est parce qu'elle l'ignore que ça marche encore mieux, que la sauvagerie est encore plus à l'œuvre. Et je trouve ça aussi assez intéressant. C'est pour ça que ces deux textes se répondent, parce que leurs états sauvages sont assez distincts, néanmoins, ils sont... correspondent.
Oui. Pour reparler du désir,
C'est justement parce qu'elle est un concentré de civilisation, d'efforts et de hâte que c'est beaucoup plus facile d'oublier le désir et même de ne pas en détecter les symptômes. Et c'est, pour moi, c'est ce qui rend ce personnage touchant, parce qu'il peut être agaçant dans sa volonté de réussite et d'empressement, mais elle est complètement déconnectée elle ne se déchiffre plus justement sur le sauvage. Et s'il y a une émotion qui est vraiment qui est l'une des premières, c'est le désir. Et après, il y a quand même tout un appareil éducatif, voire selon les milieux religieux ou psychanalytiques, qui vous dit que le désir est déviant. Donc, et on l'oublie, ça fait partie des choses que la femme sauvage doit retrouver. C'est-à-dire que la puissance du désir, comme intuition, comme outil cognitif, comme gouverneur de thème et tout, Elle répond à ce désir-là, mais elle l'ignore complètement. Elle a la chance d'y répondre. Elle trouve la force de faire tout ce qu'elle fait et d'encaisser pas mal de trucs, parce qu'en fait, elle est mue simplement par le désir amoureux qui va lui permettre d'attendre aussi. Mais elle l'ignore complètement. Elle donne d'autres noms à cette libido-là.
L'entrepreneuriat, par exemple.
Et tous les gens autour donnent d'autres noms à ça. Voire la condamne pour cette... ou jalouse, cette puissance-là, lui donne d'autres noms, pense que ça vient de sa formation, que ça vient, et c'est le désir amoureux. Et ça, pour le coup, pour avoir rencontré pas mal de gens, qui sont l'auteur de réussite rapide, on retrouve souvent ce motif-là, un motif émotionnel très fort, amoureux ou non.
Mais su?
Parfois, oui, ou alors, su rétrospectivement.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Maria Pourchet.
Avenir radieux, homme ambitieux, ma femme, mon pieu, tout cela est bien ennuyeux. Avenir radieux, homme ambitieux, ma femme, mon pieu, tout cela est bien ennuyeux. Elle quitta Chloé en claquant la porte. Elle eut la nette impression de sortir du tunnel, mais aussitôt elle retomba dans les bras d'une sotte. On dirait que nous ne sommes pas seuls à avoir des problèmes. Divorce, câlin, tendresse, avenir boueux, que fais-tu dans mon pieu? Amant, maîtresse, divorce, câlin, tendresse, avenir boueux, que fais-tu dans mon pieu? Il trompait Nadine avec sa secrétaire. Tous les week-ends il la baisait dans sa garçonnière. Mais sa femme l'a pris et son cœur fut brisé. Déjà que sa vie était pathétique et ratée. Avenir radieux, amant ambitieux, ma femme, mon pieu, tout cela est bien ennuyeux. Amant, maîtresse, divorce, câlin, tendresse, avenir boueux, que fais-tu dans mon pieu?
Sexy Sushi avec amant, maîtresse, Maria Pourchet. Est-ce que vous saviez, en commençant ce texte, qui s'appuyait sur cette enquête donc de jeunes gens qui sont les gens qu'on dit avoir réussi dans l'époque contemporaine, qui sont jeunes et qui dirigent des entreprises, est-ce que vous saviez que ce serait aussi une romance, que ce serait aussi un texte sur ce que c'est que le couple, que ce serait un texte sur ce que c'est que tomber amoureux, sur ce que ça met comme grain de sable dans l'existence, et aussi pour reprendre les paroles de Rebecca Warrior, donc peut-être une réflexion sur cette forme-là, du texte qui traite de ça.
Alors en fait, là, ça va encore nous renvoyer à la mécanique, parce que là, il y en a peut-être un peu.
Donc je savais que je ferais une fiction. Et puis au moment où je me dis bon bah il y a différents formats qui se proposent, il n'y en a pas 50, hein. Il y a soit c'est une intrigue policière, soit il y a l'intrigue politico-industrielle, soit il y a l'intrigue amoureuse. Et je me suis dit, bon bah l'intrigue policière, bon j'ai pas le rapport.
Je suis hyper, c'est hyper étonnant de voir à quel point tout ça est tellement cartésien pour vous.
Non mais là.
Alors j'avais le choix. Ou bien je devais faire cette intrigue.
Non, parce que là pour le coup je me suis vraiment posé la question. Et donc, je mets de l'intrigue politico-industrielle pour parler de dirigeants, j'ai déjà vu, on va retomber dans la figure, le patron, figure noire, détestable, et tout, un truc bien français, et tout, donc j'avais pas envie. Et en fait, le format m'a été dicté par les gens que j'ai rencontrés pour m'inspirer sur ce livre, c'est-à-dire que leur état, ils le vivent. Beaucoup moins comme un job, un destin, un sacerdoce, que c'est comme une expérience, et c'est très sensoriel. C'est vraiment la notion de libido, je l'ai pas inventée. La force qu'ils trouvent, l'endurance qu'ils ont, elle est vraiment mue par quelque chose de, ouais, vraiment de l'ordre du désir, que ce soit le désir amoureux ou autre chose. Et donc, c'est ce qui me paraissait l'intrigue amoureuse. Je savais pas ce que j'allais raconter encore dans cette intrigue amoureuse, mais je me suis dit, en tout cas, c'est le meilleur rail pour parler de ces émotions-là, pour parler de ce qui meut, les personnages.
Et du coup, ça a été une histoire de rail, ça a été une histoire aussi de code de l'intrigue amoureuse, parce qu'à un moment donné, ben, il va y avoir une maîtresse dans le lit du mari, et que vous, en tant qu'auteur, vous allez nous faire sourire de ce que cette scène répond à du banal, à du répétitif, à du déjà raconté ou du déjà filmé. C'est-à-dire comme si ce choix de l'intrigue amoureuse vous mettez aussi sur un rail d'écriture, Maria Pourchet. Et que c'était drôle de s'en amuser.
Oui, 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 il y a un côté un peu parodique. Quand je suis allée vers le romantisme, je connaissais. Voilà, déjà, j'avais jamais écrit quelque chose aussi romanesque, parce que je parle pas de moi, donc dès lors qu'on parle pas de soi, c'est. Et puis, je voulais que ça aille vite et tout, donc ça répond à certains. Il faut souscrire à certains codes du romanesque. Et en plus, le romantique, alors là, c'était totalement nouveau, quoi. Et le romantique va rarement avec l'ironie, quand même, il faut... Et donc, c'était hyper intéressant pour moi, parce que parfois, le romantique, il prenait surtout dans le romantique grave. Là, il y a un moment, on parle de trahison et tout. Et j'ai été confrontée à... Ah, là, je peux pas faire de vanne, en fait. Et c'était super intéressant, parce que... Je ne supporte pas longtemps l'émotion, donc en général...
Oui, c'est ce que je vois, parce que vous dites, vous ne pouvez pas faire de vanne, mais enfin, ça arrive très très vite, hein, après que...
Oui, non, mais Rem j'ai quand même tenu le coup, hein, sur certaines pages, j'ai quand même pas fait la vanne tout de suite. Justement, parce que je laisse la place au... J'essaye de laisser la place au romantique. Il y a aussi un autre élément qui me paraît important pour vous répondre, c'est que, en tout cas, chez les femmes, les femmes que j'ai rencontrées... J'ai été frappée parfois par le coût symbolique de la réussite. Enfin, ce qu'on appelle les winneuses, les nanas qui montent très vite, qui montent des affaires, qui rassemblent des fonds, qui, dans un certain niveau de confidence, on peut apprendre aussi le coût de ça. Et il est puissant, quoi. Il y a vraiment
Et qui est lequel?
Il y a des dimensions qui trinquent, quoi. Le couple est une dimension qui trinque, la famille, la vie contemplative, c'est pas rien, en fait.
Et elles en disent quoi? Elles en disent qu'elles sont d'accord pour le sacrifier? Pour le pouvoir et la réussite?
Non, c'est pas, non, pas du tout. Non, c'est des recherches d'arbitrage, de réglage, de retrouver là aussi. Il y a la volonté aussi de retrouver la part sauvage et contemplative, y compris dans des exercices comme ça.
Parce que ce personnage de Rem, on voit pendant une partie du livre que... Elle avance, que elle voit que peut-être c'est pas la folie furieuse amoureuse avec Pierre, son compagnon, mais que c'est pas grave, ce sera un des trucs à faire sur la liste plus tard.
Ouais.
De même que peut-être sa vie émotive, c'est pareil, c'est pas tellement au menu, mais c'est pas grave. Vous dépeignez des êtres qui avancent coûte que coûte quand même, Maria Pourchet. Les impatients.
Qui dans cette séquence-là, ça sera pas toute leur vie, et c'est un peu une des caractéristiques de cette population là, c'est que en tout cas dans cette séquence là de la croissance du montage des affaires, dans cette séquence là de vibration, effectivement oui, ils donnent tout, mais c'est compliqué de faire autrement. Les vies multidimensionnelles, c'est dur aussi, je pense. C'est pas forcément le propre des dirigeants, c'est qu'à un moment c'est l'exercice qu'elle fait convoque, oui, toute sa libido,
et toute son et tout son temps. Et donc, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'envisage pas cette séquence-là comme toute sa vie. Je veux dire, et c'est là que ça serait un drame. C'est peut-être plus. Enfin, en tout cas, ça caractérise vraiment pas cette génération-là. Et ça c'est le coup de ça.
Ça veut dire que vous parlez davantage de personnes que d'une époque.
Je parle d'un milieu. Plus oui, mais on est toujours la produit d'une société et d'un état du temps. Donc, je parle un peu d'une époque, mais je parle avant tout d'une catégorie de personnes. Ouais.
L'écrivain adore le personnage qui lui donne la liberté de faire ce qu'il veut. De même que Dostoïevski est tombé amoureux de Raskolnikov, ou Jean Genet tombe amoureux de lui-même. Parce qu'il se donne la liberté d'imaginer au-delà des conventions. C'est-à-dire que vous me demandez si j'aime ce personnage. La réponse, c'est que je l'aime parce qu'il m'apporte en tant qu'écrivain. Là va mon affection. Évidemment, je ne pourrais pas être tranquille dans cette pièce, avec ce type pendant 2 minutes. Je connais des gens comme ça, je ne les supporte pas. Par contre, ce que je dirais à ceux qui le trouvent dégoûtant, c'est que je ne vous demande pas de le faire entrer dans votre salon, dans votre vie. Je vous dis, laissez ce personnage entrer dans la littérature. C'est ça qui est formidable dans la littérature, c'est que ce n'est pas votre salon. On peut lire le livre dans son salon, mais vous êtes en toute tranquillité, le personnage est confiné dans le livre, il ne va pas pouvoir en sortir.
Je crois ne pas me tromper en disant que c'est le seul auteur qui figure dans Les Impatients.
Mm-hmm.
C'est ça, non?
Oui.
C'est la seule mention qui est faite, et sous cette phrase lacunaire qui est « C'est alors que vous découvrez Philip Roth, ça n'est un rien du tout, c'est pire ». Ce fut le cas pour vous, Maria Pourchet?
Non, c'est vraiment quelque chose que j'adresse au personnage. Non, moi non. J'aime beaucoup Philip Roth, mais ça ne m'enflamme pas
autant que
le personnage dans l'histoire.
Dans l'histoire. Ce que dit à l'instant Philip Roth est assez intéressant parce qu'il parle de la liberté que lui confèrent certains personnages et de la jouissance qu'il obtient en tant qu'auteur en écrivant certains personnages, qu'il n'a pas à faire entrer dans son salon, mais dans la littérature. Vous disiez tout à l'heure, mais très rapidement, votre attachement à Étienne. Mais est-ce que ce fut le cas à Rennes, dans sa manière d'avancer, dans sa manière de répondre, dans sa manière parfois de faire des choix?
Alors Rennes, je ne voudrais pas travailler avec elle, mais je suis ravie de pouvoir la fréquenter dans un roman. Effectivement, c'est en vrai ce qu'on disait avec le personnage qui devient réel, quoi, avec qui on entretient une relation et un jeu. Donc non, je ne la ferai pas. Si, je la ferai entrer dans mon salon en même temps, mais les personnages comme Rennes, il faut pouvoir les dominer, parce que sinon ils vous bouffent. Donc c'est bien de pouvoir les tenir à distance. Et oui, Étienne, oui, je partirai en vacances avec. Il y a les mêmes, ça réplique, oui, les mêmes catégories que les relations sociales. Je comprends tout à fait ce qu'il dit, mais c'est mieux d'ailleurs d'avoir un personnage principal qu'on n'adore pas, avec qui on n'a pas un rapport de fascination ou de, on en dit plus, quoi. Sinon, il vous domine très vite.
Quatre minutes plus tard, Rennes a exprimé la réalité en chiffres. La somme nécessaire au lancement de l'activité, location incluse d'un pas de porte, le total des salaires annuels des 10 personnes qu'elle envisage de recruter, les délais avant l'ouverture, le chiffre d'affaires au premier trimestre, la perspective de rentabilité sur une année, le coût de la reproductivité du modèle à l'étranger, le salaire qu'elle se versera au premier trimestre, ce qu'elle se versera au troisième car elle le méritera, la date de la revente et la plus-value à en retirer pour chacun des partenaires. Elle n'a pas parlé d'elle, ne s'exprimant qu'au présent de l'indicatif. Présentement, le grand demande au rond combien il met, et c'est 300 000. L'autre, précisant que ce n'est pas un concours, allonge de 500 000. Faites l'addition. Rennes ouvre la bouche. Le grand dit « C'est notre tour, écoutez ». Dans leur approche de l'investissement, ils ont l'habitude de recruter les équipes et de trouver les lieux. Les fonds de commerce, ça fait partie de l'accompagnement. On a des partenaires, des agences, des chasseurs. Rennes oppose qu'elle a la 4G, des réseaux, des idées, des amis pour avoir des idées de lieux et de candidats. Elle ne va pas commencer à claquer leur fric en achetant des services gratuits, si. Elle le dit comme ça. « Merci mademoiselle de nous éduquer », dit le grand. « Putain, les jeunes », dit le rond. « Démerdez-vous alors, on vous regarde ». Bientôt, elle trouvera tout cela naturel. Cette hâte, cette mesure, ces costumes étroits, ces gens qui ne rougissent jamais, ces voix sans variation, cette langue baroque faite de phrases nominales, de vulgarité, de grammaire parfaite s'il le faut. d'anglicismes, de noms, d'onomatopées, de scores de tennis, de politesse, de métaphores animalières, de doigts sur les lèvres, de références à Warhol, d'ironie, de démonstrations mathématiques comme autant de figures de style, d'invitations à se faire enculer, de références à Confucius, de oui sans effet, de non sans appel.
Jeanne Alléos lit un extrait des Impatients. Maria Pourchet, c'est un moment où, décisif où Rennes se retrouve face à deux investisseurs et leur claque le bec, très tranquillement, et leur fait la leçon. Et je trouve assez intéressant la suite où vous écrivez, Maria Pourchet, qu'elle finira par tout trouver normal, y compris ce langage. Et là encore, j'aimerais bien qu'on fasse un sort de parallèle avec Toutes les femmes sauf une, où vous réfléchissez tellement aux phrases qui sont dites pour les déconstruire. Et là, c'est presque le chemin inverse que fait Rennes dans la manière qu'elle a d'incorporer tous les codes, tous les langages, et que c'est ça qui va permettre sa réussite et sa fulgurance. Comme si elles avaient, alors en l'occurrence vous dans Toutes les femmes sauf une et Rennes dans Les Impatients, des trajectoires concordantes mais opposées.
Alors,
face au langage.
Alors j'ai pas, c'est en écoutant l'extrait en fait et en vous écoutant que je me dis oui effectivement il y a une réflexion aussi sur le langage là, mais je m'en étais pas rendu compte en fait. Cette capacité d'adaptation et d'intégration des codes, des langages, de les distribuer dans les bons contextes et aux bons endroits et face aux bonnes personnes, ça fait partie des capacités les plus étonnantes, enfin quand on ne l'a pas en tout cas ça étonne, des gens que j'ai rencontrés. Cette acrobatie intellectuelle permanente et assimiler et resservir en fait. Elles sont pas du tout au même état de leur à la même étape de leur processus d'individuation, j'ai envie de dire. Elles sont pas du tout sur le même plan de conscience. Peut-être que Rennes, qui n'a pas encore d'enfant, qui a, je crois, je sais plus quel âge je lui ai donné, 34 ans,
32.
Je crois. 32. À la fin du livre.
Peut-être 34 à la fin.
Rennes en viendra peut-être, et je le pense d'ailleurs, que ça va faire partie de sa trajectoire, en viendra peut-être à cette crise de conscience et à cette panique de la reproduction, surtout au regard de la mère que je lui ai donnée, quand elle aura un enfant. Mais pour le moment, elle trouve tout ça normal. Les investisseurs, elles leur claquent pas le bec. C'est eux qui ont le pouvoir, mais elles s'en rendent pas compte, en fait. C'est eux qui veulent bien, c'est eux qui décident. Et
Elle ose ici et un peu plus tard dans le livre.
C'est quelqu'un qui ose en permanence, qui a plus beaucoup de surmoi, en fait. Ça, c'est vrai.
De manière assez jouissive, quand même.
Ah oui, ouais. Comme elle doit aller vite, comme elle s'est donnée, c'est à l'image des gens que j'ai rencontrés, c'est quelqu'un qui veut mettre plusieurs vies en une. Mais il ne s'agit pas que cette vie-là, donc là en l'occurrence une vie de dirigeante, soit moins intense que si elle lui prenait 60 ans. Donc il faut aller très vite, il y a des freins à lever, il y a des étapes à court-circuiter. Et pour imprimer ce rythme-là à sa vie, donc que j'ai qualifié d'impatience, ce qui n'est pas un trait de caractère qui est le rythme et la démarche qu'imposent aux personnages les choix qu'ils ont faits. Et pour gagner ce temps-là, elle se débarrasse effectivement de beaucoup de codes, de beaucoup de convenances, de beaucoup de décence commune en fait. Et c'est ce qui peut rendre le contact à Rennes un petit peu rugueux. Mais ce n'est plus qu'un mois en fait. Elle fait quand même beaucoup moins d'efforts que la même reine dans la génération d'avant. Pas plus mal.
Évidemment, d'ailleurs, je crois que c'est à la suite de cette scène-là, on ne manque pas de lui rappeler de temps en temps que c'est une femme et que ça se passerait différemment si ça n'en était pas une. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez remarqué?
Alors, je crois que c'est elle, à un moment, qui dit justement à un des investisseurs, vous ne l'auriez pas du tout dit comme ça à un homme. C'est elle qui fait...
Oui, enfin là, on lui dit aussi, la prochaine fois, t'éviteras le bouton en moins, la mini-jupe, les jambes croisées, le début des seins.
Ouais. Oui, c'est vrai. Mais alors, est-ce que c'est... est-ce que c'est des résidus de la domination masculine, hein, ou est-ce que c'est une façon de lui dire, justement, on n'en est plus là, c'est pas la peine, en fait. Et justement, là, je laisse le choix. Ça peut être interprété... Tout le monde ne l'interprète pas comme ça, par exemple. Ça peut être interprété totalement différemment. On peut se dire, pourquoi Rennes a mis une mini-jupe et a laissé ouvert le premier bouton de son corsage pour aller demander du fric à un fonds d'investissement? Voilà. Donc, où est, chez qui s'expriment le plus les résidus de la domination masculine? Est-ce que c'est chez elles, parce qu'ils sont intégrés, parce que voilà, on a été aussi éduqués là-dedans, ou est-ce que c'est chez son interlocuteur qui lui dit c'est pas la peine, en fait? Je sais pas.
Est-ce que vous avez choisi, parce que la question vous intéressait, qu'elle soit un personnage féminin, et est-ce que ça vous aurait intéressé tout autant de suivre cette même fulgurance entrepreneuriale chez un homme?
Non, ça m'aurait moins intéressé. Ça m'aurait moins intéressé parce que j'aurais eu le sentiment d'être plus classique. Et il y a plus de, justement, j'aurais eu l'impression de dire en creux que ces trajectoires-là étaient plus naturelles aux hommes, ou étaient plus faciles aux hommes, ou leur étaient plus proposées dans l'état de la société. Alors que c'est pas vrai, en fait. À ces niveaux-là, le genre n'est plus vraiment discriminant, en fait. J'ai rencontré autant de filles, on le parle. Il y a un peu plus, effectivement, de mecs à la sortie de l'ENA ou de la HEC, mais pas beaucoup, quoi. C'est donc finalement, et puis justement les filles que j'ai rencontrées ne veulent pas que ça soit une réalité, c'est-à-dire que ce soit plus facile pour les hommes. Donc d'autant plus d'appétit à entreprendre cette trajectoire-là, elles sont encouragées à le faire. Ça m'aurait paru un angle un peu mensonger sur ce micro-milieu que j'analyse.
On a commencé cet entretien en disant qu'il fallait avoir écrit un texte, toutes les femmes sauf une, pour pouvoir se lancer dans un nouveau texte. Les impatients, qu'en est-il une fois que ces deux livres-là ont été livrés, Maria Pourchet?
Je suis un peu surprise de leur disparité. vous faites des liens qui m'intéressent beaucoup entre les deux textes que parfois j'avais pas vus. Donc ça me rassure. Je me dis, mais sur le coup, je me suis dit, c'est schizophrène, en fait.
Ouais, vous aviez l'impression d'être à ce point-là. Très différent, hein. Je continue de dire que c'est deux textes très différents, mais.
Mais aujourd'hui, j'en reste sur le. C'est tout frais, en fait. Donc je me dis, ah oui, donc. En fait, j'attends le texte d'après. Je ne sais pas à quoi ressemblera la suite de ma production. Si ça ressemblera davantage à toutes les femmes ou davantage aux impatients.
Je ne sais plus
quelle langue domine. En fait, ce que je ne sais pas. En fait, ce que je cherchais, finalement, comme on disait tout à l'heure,
quel est le projet ?
La voix que j'avais, une voix initiale, quelque chose. Mais en fait, je n'ai pas trouvé parce que je ne sais pas. J'attends la preuve. En fait, j'ai les deux. En fait, donc je ne sais pas.
À suivre. Les impatients, c'est le roman dont on a principalement parlé. Il paraît en cette rentrée de janvier aux éditions Gallimard, et Toutes les femmes sauf une est paru aux éditions Pauvert à l'automne. Et on peut le trouver partout. Suddenly you want more. Suddenly you need more. Now you just wanna do it again. Yeah, you just wanna try it again. Now you're wondering what it was, how you ever could be so close. Now you just wanna do it again. Au son ce soir, c'était Lydwine Caron, à la réalisation Lise-Marie Barré. Un grand merci à Jeanne Aléo, ce loup que vous viez, Marianne Chassor et Anna Baron, qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, le journal. Et moi, je vous dis à demain. Très belle soirée sur France Culture. Your secret song.